Ding dong.
Ding dong.
La bande passante.
La bande passante.
Bonsoir Montréal.
La bande passante à Montréal.
Bonsoir Montréal.
Bon après-midi, merci d'aider Nantes aujourd'hui aux Francofolies.
On commence pas tant que vous êtes pas chaud.
Laurent Salerno, Alain Pilot.
Parce que c'est un festival qui propose 11 jours de chansons francophones et françaises, parce qu'il est à la fois en plein air et en salle, pour au moins ces raisons, nous souhaitions que la bande repasse par Montréal et ses Francofolies. Et nous nous sommes installés pour cette deuxième journée dans le village de Montmartre de Paris, recréé sur l'esplanade de la Place des Arts de Montréal. Allô Marie-Lou.
Allô Alain. Je suis Marie-Lou, attachée de presse des Francofolies de Montréal. Au sommaire de cette bande de mardi, Claude Pelgag, prix Félix Leclerc et prix de celle qui fait battre notre cage thoracique d'une façon magnifique, le petit orchestre parisien qui fait danser le Madison au Québécois, Matt Vézio et Antoine Corriveau sont à la radio, Philippe Renaud, critique locale sans concession, nous donnera son opinion, sans oublier l'info inédite du vice-président Laurent Saunier. Ce n'est qu'à RFI qu'il l'a dite. Soyez les bienvenus dans votre maison et sa musique féerique à tous les étages.
Gâcher, oui.
Gâcher, oui,
on va gâcher.
Gâcher, ah, je connais pas. Gâcher, c'est quoi?
Oui, j'adore.
Ça veut dire quoi? Je suis française, je connais pas.
Gâcher. Oh boy, là, tu viens me chercher.
Je suis désolée, mon français est horrible.
Ah, ben, j'adore gâcher.
On pense plus côté européen, c'est sûr.
Marseille, peut-être, ou non? La Marseillaise.
La France.
Ça, la fête, la joie, plein de choses. J'aime tout, c'est fantastique.
Les années 60, les années 80, je dirais.
Bah, je sais pas, Marie-Antoinette.
Les Champs-Élysées.
Bonsoir Paris. Ah non, pardon, je me suis trompée. Bonsoir Montréal.
Bonsoir Cathy Estève du Petit Orchestre Parisien.
Bonsoir Alain.
Bonsoir Alain.
Le pop. Pour la première fois, les Francofolies de Montréal recréent sur l'esplanade de la Place des Arts le bal pop, qui est une espèce de Paris, cartoon, Montmartre, Amélie Poulain. Un vrai bal populaire chaque fois comme ça se fait à Paris depuis 150 ans. Comment s'est faite cette association complètement atypique avec les Francofolies?
Ça date de il y a au moins 4 ans, je crois, parce que je suis... Bon. Comme toi, je croise Laurent Saulnier sur les festivals.
Le programmateur des Francofolies.
Absolument. Et vice-président, j'ai remarqué. Je le croise très régulièrement. Et depuis 4 ou 5 ans, je le tanne pour, en lui parlant du bal, en me disant quand même que le bal aux Francofolies de Montréal, et d'ailleurs dans les autres Francofolies, j'en profite, ça serait pas mal. Et il a cherché une formule et apparemment, ils ont créé un nouvel espace. Et il y a un peu plus d'un an, il commençait à avoir une idée dans sa tête qui germait. Et puis cette idée a fait floraison, n'est-ce pas? Et ils ont trouvé cette idée, ce truc de faire un petit village montmartrois. Et puis donc de nous convier à l'histoire, puisque nous correspondions bien à l'image qu'ils voulaient donner de la France et de Paris.
Le petit orchestre donc parisien est déjà coutumé de ce style de spectacle à Paris, où vous souhaitiez que tout le monde danse, chante, fête, fort de reprises des chansons les plus entraînantes de Joe Dassin jusqu'au Rita Mitsouko. Cathy, comment est partie l'envie du petit orchestre parisien?
Alors, l'envie du petit orchestre parisien, en fait, est partie d'une... On est une émanation d'un plus gros groupe, concept de bal.
Le golem.
Qui est né en 1995 à l'Élysée-Montmartre, qui était le grand orchestre de l'Élysée-Montmartre. Et donc, on en est un petit peu une émanation, on va dire. Et quand l'Élysée-Montmartre s'est arrêté, le concept du bal de l'Élysée-Montmartre s'est arrêté, on a voulu chercher un concept plus familial. Et du coup, on a eu l'idée d'un répertoire peut-être plus déjà plus francophone. Et il y a le karaoké, qui est le clou presque des attractions, hein, on va dire, qui est en fait un karaoké avec deux vrais musiciens en chair et en os, Tonio et François, qui accompagnent. Alors en plus ici au Canada, c'est génial parce qu'ils chantent bien les gens.
Comment réagissent les spectateurs? Moi, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte hier. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, on peut voir les images du Madison sur la page Facebook de la bande passante tournée par Franck Baudin. Comment ils réagissent?
Eh ben c'est génial parce qu'ils sont vraiment partants. Alors au tout début du bal, je crois qu'ils sont un petit peu en observation, en train de se dire voilà, qu'est-ce que c'est, on regarde, et puis très très vite ça commence à danser, et là justement le Madison, c'est un... en fait je m'improvise prof de danse à un moment donné, donc je descends de scène, je vais au milieu des gens et je leur enseigne des pas, je fais des variations sur le traditionnel Madison, mais je fais des variations, des petits tours, lever les bras, tout ça.
Quelles chansons de votre répertoire sont connues des Québécois, Cathy ?
Alors déjà, je pense qu'ils connaissent Tout Piaf, ça c'est sûr. Après, Champs-Élysées, Joe Dassin, alors là c'est terrible, tout le monde chante. Mais par exemple, on a fait Sympathique. J'ai l'impression qu'ils connaissent tout, moi.
Il n'y a pas que le bal, donc il y avait les animations, on en a parlé. Vous renouez avec la tradition du bal de village, mais sans les bagarres. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette tradition du bal populaire ?
Déjà, dans le mot bal populaire, il y a le mot populaire. Donc on aime bien aussi faire des choses populaires. Et puis aussi de cette... Le spectre des âges, c'est vachement bien de pouvoir faire plaisir aussi aux plus jeunes jusqu'aux plus vieux.
Et puis moi, je viens du Pays Basque. Et du coup, il y a quand même une tradition là-bas de le bal populaire. C'est vraiment quelque chose qui est un lien social entre les vieux, les jeunes, les familles. C'est aussi l'endroit où on fait des rencontres, où on se marie, où on fait les enfants. Enfin, pour moi, le bal, c'est un lien social. Et je crois que c'est pour ça que j'adore faire du bal.
À suivre maintenant dans cette bande passante, Antoine Corriveau et Matt Vézio. Est-ce que vous connaissez ?
Oui,
bien sûr.
Et bon, on va la retrouver tout de suite. Merci beaucoup, Cathy et Steph.
Merci.
Merci, au revoir Alain.
Bonsoir Paris. Ah non, pardon. C'est l'habitude, je me suis trompée. Bonsoir Montréal. Ça va bien ? Même si moi, on m'avait vanté le ciel de Montréal, mais en vrai, ce soir, je le sens bizarre, le ciel de Montréal. Alors du coup, je crois que je vais plutôt chanter le ciel de... Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amours.
Le pop ou le petit orchestre parisien et ses flonflons sont Madison chez les Montmont, les Montréalais jusqu'à la fin des Franco, tous les jours de 18h à 23h, heure locale. Il pourrait être un orchestre à lui tout seul, tellement il manie nombre d'instruments. Matt Vézio dans la bande québécoise. Bonsoir Matt Vézio.
Bonsoir.
Pas trop fâché après Clopel Gag ?
Pour...
Parce qu'elle a eu le prix Félix Leclerc.
Oh, non, je suis très content. On était en compétition, mais une saine compétition. Puis je suis très très content que c'est elle qui ait gagné. C'est sûr que dans mon cœur, j'aurais aimé... aussi Antoine Corriveau qui a réalisé aussi mon album, donc je suis très très content, j'admire beaucoup ce qu'a fait Clo, fait que je suis vraiment content pour elle.
Vous êtes batteur?
Oui,
mais pas que, parce que vous êtes avec votre guitare ici, vous êtes aussi multi-instrumentiste. Vous avez débuté la scène aux côtés de Mille Monarques. Vous nous racontez comment ça s'est passé?
Oui, donc, mais en fait, je revenais d'Europe. J'ai habité 2 ans à Paris, puis j'ai pas fait de musique du tout là-bas. Ça me manquait beaucoup. Puis c'est en revenant d'Europe, de Paris, que j'ai rencontré le chanteur de Mille Monarques. Puis il cherchait un drummer. Donc je me suis proposé. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Ça a fait boule de neige. Puis j'ai commencé à jouer dans d'autres projets. Puis vu que c'est un milieu un très petit milieu, et ça va vite. Donc, les musiciens qui jouent dans un groupe jouent aussi dans d'autres groupes. Donc, ils ont besoin d'un drummer pour un autre groupe. Fait que ça a fait de boule de neige. Puis, j'ai commencé à jouer avec beaucoup d'artistes, puis beaucoup de styles différents. Fait que ça m'a forgé un peu.
C'est amusant parce que là, vous le disiez vous à l'instant, Matt Vézio, vous êtes un peu votre parcours, il est un peu fait de remplacement, en fin de compte.
Oui, c'est drôle parce que la première fois que j'ai joué dans un groupe de musique, c'était au secondaire, mais en fait, avant ça, encore? Non professionnel, si on veut, là, c'était à l'école secondaire. J'avais peut-être 16 ans, 17 ans. Puis, j'avais un ami qui jouait dans un groupe chez lui. Je voulais tellement jouer dans ce groupe-là mais il y avait déjà un batteur. Donc, j'allais au répète, puis je jouais de la cloche à vache. Puis donc, la personne qui faisait la batterie, c'était un peu un bum où c'était lui, il volait des voitures. OK? Fait qu'il passait son temps à voler des voitures. Moi, je remplaçais ce drummer-là. Donc oui, c'est vrai, j'ai toujours remplacé des gens.
Et vous n'avez pas volé de voiture?
J'ai jamais rien volé.
Que vous a apporté votre expérience de choriste?
De
choriste, vous étiez dans une chorale à une époque.
Ah oui, ça c'était très jeune, c'est avec...
Là, vous avez remplacé personne.
J'ai remplacé personne, mais on m'a remplacé vite. Parce que c'était très jeune et j'avais l'appel de la musique était là, l'appel de la chorale. J'aimais ça, mais j'avais de la misère. Le sport prenait beaucoup de place dans ma vie. Puis j'avais de la misère à... Bon, j'allais pas aux répétitions. Puis je disais à mon chef que j'étais malade, puis j'allais jouer au hockey dans la ruelle. Mais là, quand ma mère a su ça, elle m'a dit qu'il fallait que j'appelle le chef, que je m'excuse et tout ça. Donc ça a amené d'autres valeurs, tu sais. Mais oui, j'ai chanté dans la chorale. Et ça revient de plus en plus, la chorale. Dans mon disque, Avant la mort des fleurs cueillies, mm-hmm. on peut entendre Amélie et Mélanie Boulay. Elles sont très présentes.
Les sœurs Boulay.
La moitié des sœurs Boulay. Mm-hmm. Puis... J'aime cet aspect gospel là, puis je veux approfondir ça, je veux aller de plus en plus là-dedans, je veux engager des chorales gospel.
À l'ouest, c'est la mort, tout est bien qui finit bien. Au sud, il fait noir, mets ta main sur la mienne.
Quel sentiment ressent-on, Matt Vesio, lorsque l'on est à la fois batteur, c'est-à-dire celui qui veut se mettre le plus en arrière et qui se cache le plus, et qu'on est à la fois chanteur, celui qui se met le plus en avant? C'est votre côté paradoxal?
Oh oui, total. Mais je suis pas une personne qui veut attirer l'attention vers lui nécessairement, donc ça a été un peu difficile parce que il y a une connexion à faire avec le public quand je joue de la guitare, quand je chante mes chansons à faire, donc il y a une espèce de dialogue à faire avec le public. Puis j'étais vraiment pas habitué, je connaissais pas ce langage-là, puis j'apprends à le découvrir, j'apprends à connaître ce langage, puis c'est de l'apprentissage à chaque spectacle.
Votre album, vous le disiez, s'appelle Avant la mort des fleurs cueillies. Mm-hmm. Qu'avez-vous l'impression de recueillir à la fin d'un concert?
C'est intéressant parce que à la fin d'un concert, j'ai goût de continuer, de rejouer, de refaire le concert tout de suite. Tandis qu'avant un concert, j'ai goût d'arrêter. j'ai vraiment le goût d'arrêter, mais après un spectacle, tu sais, j'y prends goût à tout ça, puis à jouer, puis à partager les musiques, mes chansons, les paroles et tout ça. Bien que ce soit mélancolique, je trouve qu'il y a une espèce de lumière qui est là quand même, puis qu'il y a un côté positif qui est là. Pour moi, ça m'apporte beaucoup. Puis je sens aussi pour les gens présents, mais ça leur apporte aussi, ça les apaise.
Antoine Corriveau, vous le disiez tout à l'heure, a réalisé votre album. Nous allons le rencontrer dans quelques instants. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer par le biais de la radio? Quelque chose que vous n'avez peut-être pas réussi à lui dire en face?
Ah, ok. Mais Antoine, tu ne réaliseras pas mon album qui s'en vient. Donc, j'ai engagé quelqu'un d'autre. Non, c'est pas vrai. Non, mais Antoine, j'ai peut-être pas dit en personne, mais c'est un grand réalisateur. J'étais sa première réalisation, mais c'est un grand réal parce qu'il est à l'écoute de l'artiste. Il fait ça pour les bonnes raisons. Il fait ça au nom de la chanson. Et il va tout faire pour... des fois, il prend des décisions qui peuvent... Pas nécessairement les plus populaires ou les plus faciles à faire, mais c'est tout le temps au nom de la chanson. Puis ça, c'est vraiment une grande qualité, je trouve, chez un réalisateur. Puis il y a déjà ça en lui. Fait qu'il y a comme une grande carrière de réalisation qui s'en vient.
Merci beaucoup, Matt Vesio.
Merci à vous. Hein.
Ça va?
Yeah.
Merci d'avoir bravé la déprime du lundi soir à 23h pour sortir voir un show. Je m'appelle Antoine Corriveau. On vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être là.
Bonsoir, Antoine Corriveau.
Bonsoir.
Je vais vous poser la même question qu'à Matt Vesio. Pas trop fâché après Clopel Gag?
Non, pas du tout. J'aime... C'est une amie, puis je suis très content pour elle.
Je rappelle pourquoi je dis ça, parce qu'elle a remporté le prix Félix Leclerc.
Ouais.
Félix Leclerc, c'est quelqu'un qui représente quelque chose pour vous?
Ben, c'est sûr qu'il représente tout un pan, en fait, de l'histoire de la chanson au Québec. Après, je connais pas son œuvre en profondeur puis en détail, mais j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait puis pour son parcours. Puis c'est un. J'ai rencontré Gilles Vigneault en janvier dernier parce que j'ai fait une résidence d'écriture avec lui pendant une semaine. Donc ces deux-là sont deux morceaux très importants quand même de l'histoire de la chanson au Québec.
Qu'est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir appris aux côtés de Gilles Vigneault?
Beaucoup de choses. C'était une semaine, on a passé une semaine ensemble où il a parlé. C'est beaucoup une semaine où, il y a des exercices d'écriture. Oui, on était un petit groupe, mais il y a aussi beaucoup de... Juste Gilles Vigneault qui nous parle de la vie, qui nous parle de plein de choses. Puis qui, c'est un homme très intelligent, très drôle, très vif d'esprit, allumé. Donc c'était un moment, je me suis senti assez privilégié. T'sais.
Il y a des heures trop tendres, matin de route morne, que je sens comme des soirs d'une fatigue éterne. À voir le jour se lever sur les contours clairs des décors qu'on peut deviner avant de se coucher. Ça arrive le matin comme ce que j'ai souhaité révéler toute la nuit et je n'ai pas dormi.
Antoine Corriveau, le nouvel opus, c'est cette chose qui cogne au creux de sa poitrine sans vouloir s'arrêter. Qu'est-ce qui doit cogner et qu'est-ce qui ne doit pas s'arrêter en concert?
En fait, je pense en fait que ce qui ne doit pas s'arrêter, c'est le désir d'être là pour de vrai, puis de tu sais, je pense que ça peut être facile. Ben ça, c'est dans toutes les disciplines, je pense, mais en musique, puis sur scène, de tomber parfois, quand vu que c'est... Veux pas, c'est un travail comme un autre qu'on finit par faire à répétition, des spectacles, qui peut devenir... c'est facile de tomber en pilote automatique. Fait que je pense que ce qui doit pas arrêter, c'est la vérité, t'sais, de rester dans le moment, puis dans connecter à l'essence des chansons, puis à pourquoi on les a écrites, puis pourquoi ce qu'elles veulent dire, puis pas l'oublier quand on les interprète pour la centième fois sur scène.
Quel est-vous le sentiment d'avoir apporté à Matt Vezio en réalisant son disque?
Ça a été un travail d'équipe, beaucoup. Ça a été, Matt, c'est un artiste super talentueux, qui avait des super belles chansons. Je pense qu'il avait besoin de qu'on ait d'avoir une vue d'ensemble un peu sur tout ça, puis de resserrer certains trucs pour au final que l'espèce de masse de chansons devienne un album qui se tient, un tout qui se tient. Donc je l'ai aidé beaucoup, je pense, là-dedans, mais c'est beaucoup un échange pour moi, puis c'est important que ça en soit.
Merci beaucoup, Antoine Corriveau.
Merci à vous.
Dans ta tête au matin, l'essence ne brûle rien et tu recommences. J'essaierai, je le resterai, je resterai fermé. Puis je vieillirai et je regretterai. Je reste un peu froid quand je pense à toi. Mais ça reste encore bien plus froid dehors.
Antoine Corriveau dans le cadre des Nuits Rock sur la scène extérieure située à l'angle Sainte-Catherine et Jeanne-Mance. À suivre juste après avoir fait le tour du monde de l'actualité en 3 minutes depuis nos studios en France, Clopelgag et son concert coronarien et les commentaires judicieux de Philippe Renaud. A tout de suite sur RFI dans la bande festivalante.
Attachez votre tuque.
La bande passante, elle est à Montréal.
La bande traverse la grande flaque.
Surveillez-la.
Laurent Salerno, Alain Pilot.
Retour de la bande passante sur RFI pour l'édition 2017 des Francofolies québécoises depuis le village de Montmartre, téléporté en plein centre de Montréal. Re-allô Marie-Lou de l'équipe des Franco.
Re-allô Alain. Quels sont les coups de cœur du journaliste spécialiste Philippe Renaud? Et que va faire Claude Pelgag de son prix Félix Leclerc? Enfin, que va nous confier Laurent Saunier en exclusivité? Soyez de nouveau les bienvenus dans votre maison et sa musique thoracique à tous les étages.
Bonsoir Claude Pelgag.
Bonsoir.
Deux jours après votre spectacle symphonique, une première autour de l'album que vous êtes venu nous présenter à Paris, l'Étoile Thoracique, plusieurs ovations debout et un prix Félix Leclerc. Comment se sent le petit organe qui se trouve au milieu de votre cage thoracique? C'était le fun, sont les premiers mots que vous avez lâchés à la fin. Vous qui étiez persuadé, ce serait un moment haut en émotion. Merci pour mon accent.
Ben, je me sens, c'est vraiment une drôle d'émotion, un mélange d'émotions en fait, parce qu'on a parlé de ce spectacle-là depuis, on en parle depuis genre 7 mois. On travaille là-dessus depuis comme 7 mois. Puis c'est le spectacle dont j'ai le plus parlé avant que ça se passe de toute ma vie. Puis je vivais comme un stress perpétuel en fait par rapport à ce spectacle-là. Je voulais que ce soit comme bien en fait. Puis je voulais qu'on soit prêt, puis que tout soit, je sais pas, tu sais, c'était vraiment comme le genre de contexte que j'avais jamais vraiment expérimenté non plus, dans une grande salle assise comme ça, de 1400 places, avec, tu vois, les gens un peu dans le noir, puis autant de gens sur scène aussi. Donc, c'était vraiment comme un gros projet, là, pour moi. Puis finalement, j'ai comme... Là, c'est fait. Donc, c'est tellement étrange que ce soit fait, finalement, puis que ça soit aussi bien passé, en fait, parce que je pense que ça s'est très bien passé, puis... Donc, je suis comme un peu dans une bulle, là, puis un petit nuage encore là, depuis. Puis je suis vraiment... J'ai trouvé ce spectacle-là hyper émouvant aussi pour mon frère avec qui je travaille
justement,
depuis longtemps.
Justement, je voulais demander à votre frère.
Ouais.
Comment se sent-il, lui? Dans une bulle aussi?
Ben, je lui ai même pas parlé là, depuis.
Non,
parce que je l'ai invité à prendre un café, puis il avait pas le temps. Donc, on est supposé se voir cette semaine, plus avec la fatigue un peu éloignée, puis... autour d'un petit verre, puis j'ai bien hâte à ce moment-là. Mais je pense qu'il est vraiment heureux aussi. En fait, on parle jamais vraiment des arrangements dans les articles ici, on dirait. Quand l'album est sorti, on en a pas ben peu parlé, parce que peut-être que les gens saisissaient pas l'ampleur que ça prenait non plus dans le projet. Donc là, tous les articles sont sortis aussi, ils en parlent beaucoup. Donc je suis vraiment contente pour lui que son travail soit enfin révélé au grand jour, là, comme qu'il soit qu'on soulève son travail, puis qu'on en parle enfin, puis qu'on parle enfin de la musique et pas d'autre chose. Donc
il serait temps.
Ouais, c'est le temps, mais souvent on oublie.
Ben, je vais abonder dans votre sens, puisque nos confrères qui étaient dans cette émission aujourd'hui, Philippe Renaud du Devoir, a écrit notamment ceci: applaudissons Mathieu Pelletier-Gagnon, ou Pelgag pour faire court, n'est-ce pas, qui signait les arrangements de l'album ainsi que les orchestrations du concert d'hier soir, d'avoir bien jaugé les chansons à partir desquelles il a travaillé. La belle incendie, par exemple, offerte au milieu de la soirée, se suffisait à elle-même, envoûtée par la voix de Claude. Nous en oublions presque qu'un orchestre jouait derrière, c'était l'effet escompté. Idem pour les animaux, servi durant la seconde moitié. L'orchestre jouait de manière effacée avant de surgir pour un coda dynamique, inventif jusque dans son motif rythmique. Bravo. Que vous inspire cette critique?
Ben, c'est une belle critique. Puis, mais c'est ça, moi je suis vraiment impressionnée qu'il parle autant de la musique. Puis ça fait vraiment plaisir que, tu sais, quand on fait un spectacle, on parle plus de ce qui s'est passé, mais on parle peu de, justement, de, mettons, d'un motif rythmique ou d'un passage en particulier. Donc, je suis contente, là. Je suis vraiment heureuse. Puis, merci, Philippe Renaud.
Deux rappels non prévus, un morceau de boîte à musique et puis une chanson en piano-voix. Moi, j'étais un peu déçue, parce que j'avais payé pour l'orchestre.
Hein. Ouais, c'est ça.
Pourquoi n'aviez-vous rien envisagé?
Parce que j'ai...
C'est la vérité vraie?
Hein?
C'est la vérité vraie?
Oui, c'est la vérité. Puis on avait dit, on va faire l'album au complet, l'Étoile Thoracique. C'est une chanson après l'autre, en ordre. Puis c'était ça que je voulais faire. Puis, tu sais, on dirait que je trouve que le rappel, c'est tellement devenu un réflexe, parfois pour les gens, puis un acquis un peu. Puis tu sais, le petit jeu de sortir de scène puis de t'attendre vraiment à ce que ça se passe, je trouve ça un peu...
insupportable.
Je trouve ça comme... Je me sens un peu mal, des fois, de sortir en sachant qu'il va peut-être avoir ça, puis de le savoir à l'avance. C'est comme plus comme une surprise, vraiment, des fois, puis là, que j'avais pas prévu, puis... Tu sais, quand il y a un rappel, puis que c'est là qu'il se passe les plus gros trucs du spectacle, c'est comme un peu comme... Ah, ouais, tu sais, vraiment, tu sais... C'est comme tellement attendu que... Je sais pas. J'avais juste pas envie de prévoir de rappel, puis je trouvais que c'est une belle façon. Je me suis dit, de toute façon, je vais en faire une toute seule au piano si ça se passe, puis ça va être... Tu sais, ça va être correct comme ça, puis ça va clore le spectacle d'une façon plus... une façon intime, même si je pense que le spectacle était vraiment assez intimiste dans la forme, quand même, malgré le nombre de personnes sur scène, mais...
Combien?
Hein?
Combien sur scène? 35?
On était... Avec le chef, on était 36. Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le côté éphémère d'une telle prestation?
Ben, en fait, c'est juste le spectacle pour moi, la musique pour moi, c'est... Même un spectacle, c'est un moment qui existe que pour ceux qui le voient. Puis je trouve ça comme incroyable et vraiment précieux qu'il y ait que les gens qui sont dans la salle qui puissent le vivre, tu sais, puis qui puissent en parler comme d'un truc. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que par souvenir, tu sais, des bribes de souvenirs? Puis aujourd'hui, tu sais, on perd un peu ça parce que souvent les trucs sont tous filmés, donc les gens ont presque plus besoin d'aller voir des spectacles. Tout est filmé, puis ils vont juste l'écouter chez eux. Puis nous, on l'a pas filmé, le spectacle, pour des raisons aussi financières. Mais au final, je trouve ça bien que ça soit juste dans le cœur des gens, puis dans la tête des gens qui, eux, ont réservé cette soirée-là, tu sais, pour venir vivre ça avec nous. Puis c'est comme un truc qu'on a juste vécu nous ensemble. Puis comme un inside, tu sais, qu'on a ensemble. Puis je trouve ça cool, ça.
L'autre soir, à la violence, tu as oublié ton nom. Tu m'as dit des choses immenses. J'implose en constellation. J'ai regardé sur ta montre. Elle a échappé le temps. Elle remonte à la violence.
Coppelgag, vous vous dites choyé d'avoir pu poser votre voix sur l'album hommage à Richard Desjardins,
ouais,
en compagnie de Philippe Braque, avec qui vous interprétez en duo la chanson Les Yankees. Vous découvrez la musique de Desjardins à l'âge de 13 ans. Vous étiez au spectacle hommage hier ici à Montréal. Mm-hmm. Que vous inspire-t-il, Richard Desjardins?
Pour moi, c'est vraiment une icône de... C'est vraiment comme un des pères de la musique québécoise. Là, comme j'ai toujours vu, même à ses débuts, tu sais, on dirait que son nom, il résonnait déjà en moi comme un Félix Leclerc ou comme quelqu'un qui fait vraiment partie de la culture puis de notre histoire de chansons. Là. Donc, c'est comme l'hommage que je... C'est ça que je vous... Tu sais, je trouve ça vraiment choyée d'avoir participé à cet album-là parce que j'aurais pas pu demander comme mieux comme hommage. Je sais pas. Tu sais, Richard Desjardins, c'est quelqu'un de grand, c'est un poète, puis c'est comme un... C'est quelqu'un qui est très intègre aussi, je pense, puis qui est très créatif et travaillant, puis c'est un bel exemple. Puis je suis contente que ça reste dans le cœur des gens, justement, que ce genre de musique-là puisse perdurer dans le temps.
Avez-vous fini par le voir sur scène après l'avoir manqué parce que vous gardiez un enfant chez vous à Sainte-Anne-des-Monts?
Ouais. Non, je ne l'ai jamais vu sur scène. C'est vraiment triste, mais il ne fait pas beaucoup de spectacles, on dirait. Je surveille ça quand même depuis un bout. Peut-être que ça ne donne jamais, mais ça n'a jamais marché. Là. Jamais vu.
Je le disais tout à l'heure, Claude Pelgag, pardon?
C'est triste, là, mais j'ai quand même écouté l'album live au Club Soda, qui est vraiment magnifique. Là.
Mais il est plus en France maintenant qu'au Québec, apparemment.
Oui, c'est ça. Ben, il habite en France maintenant.
Ouais, désolé. Hein.
Vous l'avez piqué. Là.
Oui. Vous êtes fier d'avoir reçu le prix Félix Leclerc, et on vous comprend. Vous succédez à Sophia Nolin. Fier de ce prix Leclerc parce que ses textes sont enseignés à l'école. Si l'un des vôtres, et cela arrivera, pourrait l'être, lequel vous toucherez le plus? Quel texte à vous aimeriez...
Un de mes textes?
Qui soit enseigné à l'école.
Oh! Ben, j'en ai aucune idée parce que... Je sais pas. Un texte, je sais pas. Je peux pas prendre cette décision.
Matt Vézio et Antoine Corriveau, qui étaient en première partie de cette bande sur RFI, sont très fâchés après vous.
Oui.
Je plaisante, bien sûr. Est-ce que vous pouvez dire un mot pour ceux qui étaient en compétition face à vous pour ce prix Félix Leclerc?
Ben, je trouve que c'est... Mais tu sais, je pense qu'il faut jamais... moi-même, tu sais, il faut jamais s'attendre à avoir un prix, de toute façon. Tu sais, je pense qu'on faut juste faire de la musique, puis... C'est sûr que ça fait vraiment plaisir quand ça arrive, mais tout le monde qui était en nomination cette année méritait vraiment de l'être. Puis je trouve que juste d'être en nomination, c'est déjà comme gagnant. Là. Puis je sais pas quoi dire.
Vous connaissez ceux qui sont en compétition en France?
Non. Ben j'ai pas entendu parler de la
sélection en France. Il y a un pendant québécois et un pendant français. Donc, et après, vous échangerez. C'est-à-dire que vous irez au Francophonie de La Rochelle.
Ouais.
Et ils viendront à Montréal, mais vous serez également à Montréal.
Ouais.
Donc, on attend la réponse. On n'a pas encore le nom du gagnant du prix Félix Leclerc en France. Merci infiniment, Claude Pelgag.
Merci à toi, Alain.
Les feux en flux de fleurs poussent au milieu des champs magnétiques. Les feux en flux de fleurs, j'aime mon cœur des idées érotiques. Le soleil depuis longtemps, j'ai vu les avions qui sont passés devant. J'ai percé mes paupières pour regarder tout ce que je ne peux pas voir quand j'ai les yeux fermés. Les fleurs au flux de fleurs poussent au milieu des champs magnétiques. Les fleurs au flux de fleurs prennent l'odeur d'un narcotique. J'ai vu tout le secret de me semble plus clair. Je suis pour que le soleil peut plonger dans l'eau. J'apprends le latin du nom des animaux.
L'inédit de Laurent Saulnier, c'est mardi. Rebonjour Laurent Saulnier.
Bonjour.
Donc l'inédit de ce mardi,
Petite anecdote, cette année, on présente pour la première fois depuis 5-6 ans un groupe de hip-hop de Montréal qui s'appelle Omnicron. En 2007, lorsqu'il s'était produit ici au Franco, il y avait eu tout un tollé dans les médias parce que dans leur chanson, Omnicron, plutôt que de parler de filles et de décrire le mot fille, il disait le mot pouliche. Et ça avait été mais vraiment un truc, il y en avait partout où les gars d'Omnicron se faisaient traiter de tous les noms possibles et imaginables à cause de l'utilisation du mot pouliche et les médias avaient pas beaucoup de sens de l'humour, disons-le, et n'avaient pas compris que tout ça était fait quand même un peu beaucoup à la blague et que les deux rappeurs d'Omnicron, c'est quand même un peu des clowns, c'est quand même assez des personnages aussi. Donc, on avait eu droit à tout ce que tu peux imaginer comme commentaire là-dessus. Et donc, 10 ans après, Omnicron revient. Pas un mot là-dessus. On a tout oublié déjà et on a peut-être d'autres problèmes à résoudre.
Merci, mon poulain.
Toujours un grand plaisir.
À demain.
Bien sûr.
RFI, la bande passante en direct de Montréal avec à l'instant un extrait du concert symphonique de Clopelgag enregistré au Théâtre Maisonneuve à Montréal. Et le titre du morceau, eh bien, c'est toi qui vas nous le dire, Philippe Renaud.
Ah, tu me donnes la tâche difficile, Alain. C'est les ferrofluides fleurs. Alors, c'est plus facile de retenir lorsqu'on chante.
Comment fait-on alors?
Les ferrofluides fleurs.
Bonsoir Philippe Renaud.
Bonsoir Alain. Bienvenue à Montréal. Merci. Un plaisir de te revoir ici.
Plaisir de te revoir à chaque fois, évidemment. Philippe, tu as fait la critique du concert de Clopelgag, qui était une première pour elle et apparemment oui. Un moment éphémère. Qu'as-tu retenu de ce spectacle symphonique?
Alors, j'avais vu déjà Clopelgag lors de la sortie de l'album en novembre dernier. C'était la première de ses nouvelles chansons sur scène dans le cadre du coup de cœur francophone qui a lieu au mois de novembre. Donc, l'album est paru aussi au mois de novembre. Et c'était... D'abord, elle a joué intégralement toutes les chansons de cet album, qui est déjà plus ambitieux que le précédent. Il y a un souci d'orchestration qu'on pouvait retrouver loin des cordes, peut-être, des cuivres qu'on a entendues lors du spectacle au Théâtre Maisonneuve, avec des orchestrations électroniques en studio. Plein de petits sons étranges, pétillants, qui vont très bien avec le style de chanson qu'elle nous propose.
Jusqu'à la voix de sa grand-mère.
Jusqu'à la voix de sa grand-mère, qui est un échantillon qu'elle a rediffusé lors de ce spectacle au Théâtre Maisonneuve pour les Francopholies. Moi, j'ai été absolument emballé. C'était le concert que j'attendais le plus des Francopholies de Montréal, justement parce que cette auteure-compositrice-interprète est une vraie musicienne d'abord. On sent qu'elle a pris ses classes de piano classique. Elle a étudié la musique et ça transparaît dans le travail qui est fait. Ça peut être très joli parfois, très efficace, juste des mots avec un 3 accords, une musique finalement assez simple. Mais là, on est ailleurs. On est dans le petit concerto, dans la petite musique de chambre. Et ça a été magnifié par l'orchestre de 35 musiciens qu'elle a appelé l'orchestre du temple thoracique. Évidemment, clin d'œil à l'album, l'étoile thoracique, qui, en plus d'être bien trouvée, je trouve que ça a le mérite de permettre à la chanteuse de ne pas avoir à répéter le mot cœur dans une chanson. L'étoile thoracique, qu'est-ce que... Non, c'est quand même plus joli. C'était bien fait, bien exécuté. C'est son frère qui a signé les orchestrations, qui lui étudie là-dedans, donc il devient compositeur de musique contemporaine, Mathieu Pelletier-Gagnon, un orchestre qui est dirigé par un jeune chef québécois qui s'appelle Nicolas Ellis, qui est issu de l'Orchestre symphonique de Québec, qui va aussi remplacer Yannick Nézet-Séguin à l'Orchestre métropolitain, ici une fois de temps en temps, parce que vous savez que notre Yannick Nézet-Séguin est fort occupé, il s'en va au Met. À New York, en plus d'essayer de gérer un peu l'orchestre ici. Donc, bref, j'ai beaucoup aimé. Toi aussi, Alain, t'as aimé?
Moi, j'ai adoré.
Hein?
J'ai vraiment tombé en admiration devant ce projet, puisque je l'avais rencontré, effectivement, elle était passée par la bande pour cet album, et il n'était pas en version symphonique à ce moment-là. Et on a toujours des craintes hein, sur une version symphonique, de ce que ça peut donner. D'ailleurs, tu me le disais tout à l'heure, avant qu'on commence cette entrevue, c'est qu'un symphonique, ça peut être aussi juste de la parade, quelque part. Et là, ce n'était pas de la parade, il y avait vraiment une écriture pour ce symphonique.
Absolument, c'est parce que ça fait classe hein, de mettre une section de cordes, puis une section de cuivre. Tout d'un coup, ça donne un peu de prestige à une chanson. Et on ne se le cachera pas, comme disait... Gainsbourg, c'est un art mineur. C'est pas vrai, mais tout ça pour dire que c'est évidemment plus simple qu'une symphonie de Mahler ou qu'un... Voilà, que c'est pas du Prokofiev, là. C'est de la chanson avec un couplet puis un refrain. Bon. Cela étant dit, c'est pas une raison pour faire ce que j'appelle souvent de la tapisserie sonore. Un violon, 50 violons qui jouent tous la même note ou qui font juste remplir l'espace entre deux coups de batterie, ça sert un peu à rien. Ce n'est pas ce que nous avons eu au concert de Clopelgag au Francophonie. C'était bien arrangé. C'était parfois juste là pour souligner une mélodie. Souvent, comme je l'écrivais dans ma critique, il y a des chansons qui n'en ont pas besoin de cet artifice, qui n'ont pas besoin d'être habillées de davantage de cordes ou d'une section de cuivre. D'un fois, il faut laisser vivre la chanson par elle-même. Et d'autres fois, cette chanson-là, dans toute sa simplicité, peut permettre à un compositeur, un orchestrateur, d'avoir des idées, de pouvoir faire une sorte de prolongement de l'émotion originelle de la chanson à travers quelque chose qui va sortir du cadre de la version studio qu'on a entendue. Et là, on parle de ces glissandos, c'était, je crois, durant les mains d'Edelweiss, où ils ne sont pas sur la version originale. Et là, tout d'un coup, cette manière de faire jouer l'orchestre nous amène ailleurs, ou enfin plus loin dans l'intention, dans l'émotion de la chanson. Tout ça pour dire, bien longuement, c'était très beau.
Moment
c'était
unique.
Vraiment beau.
La bande passante sur RFI à Montréal.
Philippe Renaud du journal Le Devoir, aujourd'hui spécialiste musique. Avant de se quitter, ton autre coup de cœur de ces Francofolies de Montréal.
Oui. Pontex.
Oui.
Alors Pontex, c'est intéressant parce qu'ici au Québec, on est un peu l'aimant, le port de tous les francophones de ce grand pays, le Canada. On y a toute une journée qui est consacrée durant ces Franco à la scène musicale acadienne qui déborde jusque chez vous en France. Vous avez eu Lisa Leblanc, vous avez les Hey Babies qui marchent bien, évidemment. Alors, il y a en Saskatchewan une toute petite quand même communauté francophone, on les appelle les Fransaskois, d'où est issu ce groupe Pontex, qu'on compare ici à Carquois, et Carquois est un groupe qu'on a comparé à Radiohead, donc suivez la trace. Vous allez voir qu'on est dans cette espèce de rock un peu progressif, assez planant. Je salue d'abord, évidemment, le fait qu'ils chantent en français dans cette province où ce serait tellement plus facile de le faire entendre si on le faisait en anglais. Il y a une belle poésie quand même. C'est surtout le talent de musicien et la manière qu'il a de jouer avec des codes de jazz, de rock progressif, des temps composés, quelque chose de plus complexe que votre groupe de punk du coin de la rue, si vous voulez, 1, 2, 3, 4, bing, bang. Et ça donne des ailes à la chanson. Voilà.
Eh bien, on va se quitter avec Pontex, et non pas Spontex. C'est une éponge chez nous. Merci beaucoup, Philippe Renaud.
Ça m'a fait plaisir, Alain. À bientôt.
À bientôt, l'an prochain.
À l'an prochain.
J'espère.
J'observe Merci beaucoup, on est content d'être là ici au Francofolie avec vous ce soir.
Pontex, le coup de cœur de Philippe Renaud du Devoir sur la scène des découvertes lundi dernier en plein air à l'angle de Clark et Sainte-Catherine. Fin de cette deuxième bande montréalaise qui repasse demain pour la dernière fois outre-Atlantique avec Yann Perrault, Pierre Quenders, Vianney, Philippe B et les Sœurs Boulay en hommage à Richard Desjardins. Et l'info inédite de Laurent Saulnier, merci à Franck Baudin, restez dans la bande via musique.rfi.fr et les réseaux sociaux. Dans moins d'une minute, le journal depuis nos studios parisiens. Bonjour.